de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous interroger sur la gravitation, cette force qui nous cloue à la surface de la Terre et qui régit aussi l'évolution de l'univers tout entier, reste un mystère. Si Einstein l'a apprivoisée dans sa théorie de la relativité générale, elle continue pourtant de résister à l'infiniment petit. La gravité est incompatible avec la physique quantique, mais aussi avec les plus récentes découvertes sur l'accélération de l'expansion de l'univers et les mystérieuses énergies noires et matières noires qui composerait l'essentiel de notre univers. Alors comment faire avec cette insoutenable gravité de l'univers? Cette question obsédante pour les physiciens donne son titre à l'essai de notre invité Gabriel Chardin, médaille d'argent du CNRS, qui nous entraîne au cœur des trous noirs et même des trous de ver, ces failles dans l'espace-temps, sur les traces de l'antimatière, la matière à remonter le temps, pour tenter de résoudre peut-être l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie entre science et science-fiction autour de la question « Pourquoi l'insoutenable gravité de l'univers ?» Bienvenue. Bonjour Gabriel Chardin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous présidez le comité des très grandes infrastructures de recherche, lauréat de la médaille d'argent du CNRS pour vos travaux sur l'asymétrie matière-antimatière, l'astronomie gamma et la matière cachée de l'univers. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages plus grand public sur l'antimatière ou le voyage dans le temps, et vous venez de publier aux éditions du Pommier un essai qui pourrait bien faire date et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner. Amis auditeurs, avis aux amateurs, de cet essai qui s'intitule donc « L'insoutenable gravité de l'univers ». Pourquoi insoutenable, Gabriel Chardin?
Pour plusieurs raisons. D'abord, bon, c'est un clin d'œil évident, je dirais, un emprunt assumé à l'insoutenable légèreté de l'être.
De Milan Kundera.
De Milan Kundera. Et aussi donc le fait que, comme vous l'avez dit, la gravitation quantique, on voit des voies pour y parvenir, mais on n'arrive pas encore réussi à en faire une théorie, et surtout une théorie prédictive qui s'accorde avec le monde. Et par ailleurs, donc troisième aspect, le fait qu'en 1998, donc il y a 20 ans cette année, a été découverte une gravité répulsive tout à fait étonnante, tout à fait inattendue. Quelque chose que, faute de mieux, on appelle l'énergie noire, qui représente quand même, d'après les mesures cosmologiques, nous dit-on, environ 70% de l'énergie de l'univers, et donc le composant majeur,
principal,
et qui accélère l'expansion de l'univers, donc qui est une gravité répulsive.
Et pour ce qui est d'une autre matière noire, hein, pas l'énergie noire, mais matière noire, on est toujours en train de la rechercher, de même que l'énergie noire. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses, il y a des pistes, mais en même temps, on est un peu dans un trou noir, sans faire de mauvais jeu de mots.
Alors,
la physique.
On pourra reparler des trous noirs et de la possibilité qui représente une part de la matière cachée, mais dans les 30% restant face à l'énergie noire, donc il y aurait à peu près, dans la théorie standard, 85% de matière extraordinaire et environ, donc sur le total de 100%, 5% seulement, donc un vingtième de matière ordinaire. Donc 85% de matière noire, 15% de matière ordinaire, si on s'intéresse seulement aux 30% de matière. Or ça, donc, c'est aussi assez étonnant. Et les efforts, dont ceux de mon équipe, que j'ai dirigé, construit, participé à la construction, la conception de l'expérience Edelweiss, et puis de ses successeurs, pendant 20 ans à peu près, depuis 87 à... J'ai arrêté vers 2005-2006, une vingtaine d'années, on a fait d'énormes efforts et d'énormes progrès aussi dans la sensibilité pour rechercher la matière cachée.
Et toujours pas, pour le moment, de traces de matière cachée.
Depuis plus d'une dizaine d'années, donc des expériences comme Xénon-Hinton arrivent encore dépasser de facteur un bon facteur 100 la sensibilité déjà assez extraordinaire qu'on avait obtenue au début des années 2000, et toujours rien.
Toujours rien. Alors, est-ce que c'est pas un peu ça qui vous a amené à changer un peu de point de vue et à cette sidérante hypothèse de recherche sur l'antimatière dont nous allons parler? Nouvelle question pour vous, soulevée par Philippe Hénaréchos du mensuel Ciel et Espace.
Vous avez engagé des recherches sur une voie alternative à la matière noire. Est-ce que c'est l'échec de la détection de cette matière noire après tant d'années qui vous a poussé dans cette voie, ou est-ce que c'était une voie parallèle que vous aviez prise avant?
Votre réponse, Gabriel Chardin.
Alors, c'est la deuxième hypothèse, et ce qu'ils disent, c'est en fait, j'avais commencé à peu près au même moment, j'ai commencé à réfléchir à gravité, antimatière au milieu des années 80, et j'ai commencé la recherche de la matière cachée au niveau expérimental et instrumental en 87 à peu près. Donc, j'avais commencé un petit peu avant la réflexion, et elle allait très lentement, cette réflexion sur gravité antimatière. C'était à l'époque un sujet complètement exotique.
Aujourd'hui,
mais
c'est
donc
un sujet
pas une déception en soi.
Aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même un petit peu moins exotique. C'est comme si quoi les découvertes de ces 20 dernières années amènent à nous dire quoi? Que peut-être qu'on ne trouvera jamais cette fameuse matière noire et qu'il faut peut-être quoi? Changer de perspective, et qu'il y a peut-être de quoi faire avec, les théories d'Einstein et avec la gravitation qu'on connaît.
Il y a plusieurs éléments. Je pense que donc à cette époque-là, milieu des années 80, il y a Kip Thorne qui a eu le prix Nobel entre-temps pour la découverte des ondes gravitationnelles, avait commencé une réflexion sur les trous de ver. Donc, quelque chose dont on peut ressortir, qui est un peu comme dans Interstellar.
Une faille dans l'espace-temps, hein,
une porte vers un deuxième espace, ou le même espace et un raccourci dans l'espace-temps. Il y a eu donc petit à petit des tensions de plus en plus fortes sur le modèle standard de l'époque, qui était ce qu'on appelait Einstein de Sitter. Donc, un univers où la matière a juste assez de matière pour être juste au bord du réeffondrement, ce qu'on appelle un univers critique, qui est devenu de plus en plus en tension avec les données observationnelles. Et puis patatras, en 98, donc découverte de cette fameuse gravité répulsive qu'on appelle, faute de mieux, l'énergie noire. Dès que l'on a... Et il a fallu quelques années après, à partir de 98, on s'est convaincu que l'effet était vraiment là. Énergie noire et gravité répulsive comme un composant majeur de l'univers. Là, on est beaucoup plus incité à revenir sur l'hypothèse qu'il peut exister des masses, des pressions négatives. L'énergie noire, c'est une pression négative. Qui agit donc comme un composant à la fin répulsif, même si la densité d'énergie est positive.
Et il y a eu aussi des satellites, notamment le satellite Planck, qui a changé quoi? Notre vision des tout premiers instants de l'univers après le Big Bang?
Alors, il y a eu, pour rendre à César ce qui appartient à César, parce qu'il y a un prix Nobel à la clé aussi, il y a eu d'abord le satellite Kobe en 92. Ensuite, il y a eu au début des années 2000 WMAP dans ses différentes accumulations de données. Et puis donc, cerise sur le gâteau, quelque part, en dehors de faire des détecteurs plus nombreux, le satellite européen Planck, où la France a pris près de la moitié de l'effort.
Et qui a photographié le fond diffus cosmologique.
À la fois la vision du ciel au moment où l'univers devient transparent, et en plus sa vitesse à travers la polarisation, donc l'effondrement de la matière. Donc il y a une précision.
Au moment quoi? C'est quelques instants après le Big Bang?
Dans le modèle standard, c'est à peu près 380 000 ans après le Big Bang.
C'est quelques instants, oui, c'est ça.
Quelques longs instants. Mais donc, par rapport à nous, et nos 14 milliards d'années, c'est très proche, effectivement, du Big Bang.
Autour de la question, comment faire avec l'insoutenable gravité de l'univers, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, on continue de s'interroger en s'arrêtant juste pour écouter Gravitation, version Petit Biscuit sur RFI.
Autour. De la question. I'm picturing your face.
Ambiance gravitation sur RFI avec le groupe Petit Biscuit autour de la question pourquoi et comment faire avec l'insoutenable gravité de l'univers, question empruntée au titre de l'ouvrage de notre invité, le physicien Gabriel Chardin, et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Alors parmi tous les physiciens et astrophysiciens qui ont fait avancer nos connaissances, qui ont tenté de penser le Big Bang, les trous noirs, il y a évidemment le regretté Stephen Hawking, disparu cette année. Je propose de l'écouter tout de suite sur RFI.
The further we probe into the universe, the more remarkable are the discoveries we make.
Plus nous fouillons l'univers, plus les découvertes que nous faisons sont remarquables. L'essentiel de mon travail a porté sur les mystères des trous noirs. Bien des gens les considéraient comme une bizarrerie théorique qui n'existerait pas dans le monde réel. Puis on a commencé à observer des choses dans le ciel tout aussi bizarres. Les trous noirs sont une formidable expression de la théorie d'Einstein, qui semble être étayée par nos observations. Mais cette théorie recèle peut-être bien d'autres possibilités, comme le voyage intergalactique ou le saut dans le temps.
Voyage intergalactique, saut dans le temps. C'était bien la voix de Stephen Hawking, disparu cette année, sur la musique du film Interstellar, que vous appréciez aussi, Gabriel Chardin.
Que j'aime beaucoup, en tant que film.
Qu'est-ce qui serait possible là-dedans? Tout est possible? Tout ce qu'on observe est de plus en plus bizarre? Est-ce qu'on pourrait dire au fond que plus on en sait et plus le gouffre s'ouvre sur notre ignorance, Gabriel Chardin?
De toute façon, je pense qu'il ne faut jamais croire qu'on a tout compris, qu'on a la théorie. À chaque fois qu'on a cru ça, on a subi des déconvenues assez fortes. Effectivement, la qualité des observations, leur précision, comme on le voit dans ces détails exquis, des vues du ciel prises par Planck qui remontent à ces 380 000 ans, en tout cas dans le modèle standard, nous pose un certain nombre de défis. Car le tableau est tellement précis, a tellement de détails, que maintenant il faut arriver à comprendre si l'on est capable de reproduire et d'expliquer ce tableau.
Parce qu'en fait il s'agit maintenant d'expliquer ce qu'on voit, enfin, entre théorie, observation, interprétation, il n'y a pas une vérité, mais il faut faire concorder.
C'est un aller-retour, il y a de temps en temps des avancées théoriques qui amènent ensuite à des découvertes expérimentales ou à l'inverse. Et je crois que c'est un dialogue un peu perpétuel. Il n'y a pas de la théorie et l'expérience supérieure à l'une ou à l'autre. C'est vraiment un dialogue entre les deux. Les observations plus précises amènent de nouvelles questions qui amènent de nouveaux tests, une vérification ou non d'ailleurs, avec ces fameuses observations, et donc à faire petit à petit progresser notre compréhension.
Par exemple, la récente détection des ondes gravitationnelles, est-ce que ça a changé la donne par rapport à votre recherche sur la gravité, sur cette antimatière que nous allons aborder aussi
Alors, Un petit peu, mais sur ce qui est relativement, par rapport à ma recherche, relativement des détails, mais de façon assez intéressante, parce qu'on pourrait, dans un futur assez proche, tester cette formation des structures dans l'univers dont on va parler tout à l'heure, l'univers qui n'a pas besoin d'énergie noire pour reproduire les observations. Déjà, c'est une immense découverte, ça faisait 25 ans environ que les gens luttaient pour arriver à cette détection qui est d'une précision absolument incroyable. C'est-à-dire que la sensibilité en vibration de l'espace, c'est un atome, donc un 10 milliardième de mètre sur la distance Terre-Soleil. Représentez-vous ça, c'est même pas un cheveu, c'est bien plus petit qu'un cheveu. Hein, c'est une performance absolument extraordinaire. Et donc, avec cette sensibilité, on est arrivé à littéralement voir ou écouter, si on veut, l'effondrement, les dernières fractions de secondes à quelques secondes, dans certains cas, de tournoiement l'un autour de l'autre de ce qui ne peut être que des trous noirs, hein, à cette vitesse-là, à cette masse-là, à cette distance-là. Et donc là, pour les gens qui ne croyaient pas jusqu'ici aux trous noirs, ça, plus le fameux trou noir qui est au centre de notre galaxie, il y en a certainement beaucoup dans l'univers, c'est vraiment une indication extrêmement forte que le trou noir existe bien.
Alors, les trous noirs existent bien. Est-ce que les fameux trous de ver dont nous avons commencé à parler existent aussi? Ces portes dans l'espace-temps qui font tant fantasmer les auteurs de science-fiction, mais pas seulement, les astrophysiciens aussi. Je propose entre science et science-fiction l'éclairage trou noir, trou de ver de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet.
Les trous noirs, c'est le résultat de la contraction gravitationnelle d'une étoile, par exemple de la matière qui se contracte et qui forme un véritable puits dans le tissu élastique de l'espace et du temps. Dans la solution la plus simple, le fond de puits est bouché. Mais dans des solutions plus élaborées de la relativité générale, notamment celles associées à des trous noirs en rotation, il y a la possibilité que le fond de puits ne soit pas bouché, mais soit en fait une connexion vers une autre région de notre espace-temps. Et cette connexion étrange a été baptisée trou de ver, wormhole en anglais, pour illustrer un petit peu la possibilité qu'un ver sur une pomme, la pomme symbole de la gravitation, pour aller d'un point à un autre de la pomme, au lieu de faire le tour de la pomme, il va creuser un tunnel, un trou dans la pomme pour aller plus vite. Donc avec ces structures encore hypothétiques, mais solutions mathématiques des équations, on aurait des raccourcis pour voyager dans l'espace-temps. Une sorte de porte des étoiles, c'est-à-dire un trou noir dans les parages du système solaire, dans lesquels nous pourrions rentrer avec un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial pourrait emprunter ce raccourci de l'espace-temps et sortir par une sorte de symétrie que d'un trou noir qu'on appelle une fontaine blanche. Et quand on calcule le temps de trajet, on a la stupéfaction de s'apercevoir qu'on peut faire le voyage en une heure. C'est-à-dire on a parcouru les 20 années-lumière en une heure, on n'est pas allé plus vite que la lumière, on a simplement emprunté un raccourci.
Gabriel Chardin, ce que nous dit Jean-Pierre Luminet sur ce raccourci dans l'espace-temps, c'est de la science ou c'est de la science-fiction ?
Alors, je pense que Jean-Pierre a tout à fait raison. C'est-à-dire que les solutions existent de façon indiscutable dans la théorie. Après, sont-elles stables et peuvent-elles rester sur place sans s'effondrer ou sans évoluer de façon catastrophique ? Moi, j'aurais tendance à dire que les trous de ver, au niveau macroscopique, donc laisser passer...
À notre niveau à nous, au niveau d'un vaisseau spatial.
Au moins, ne laisser passer un être humain, quoi, un mètre de large. Ça n'existe pas pour des raisons d'instabilité. Il faut... donc,
on est trop gros pour passer dans un trou de ver.
On est trop gros... Et d'autre part, il y a trop d'instabilité qui semble complètement associée, liée à, pour un mécanisme qui est assez bien compris de l'arsène. Tout à l'heure, on parlait de l'arsène.
On est en radio, donc le l'arsène, voilà. On connaît, hein, quand ça fait des mauvaises fréquences.
Et bien là, c'est un peu ça, c'est un l'arsène de l'énergie qui... du fait qu'un trou de ver, c'est quelque part une façon de pouvoir avoir un raccourci dans l'espace-temps, les photons, jusqu'à quand le trou de ver devient efficace, peuvent passer par l'intérieur ou par l'extérieur, et quand ils font les deux, quelque part le photon arrose les deux chemins, il peut laser avec lui-même, il l'arsène avec lui-même, et il remet de l'énergie infiniment positif, si on veut, dans la partie masse négative qu'il faut, matière exotique pour arriver à avoir fait le trou de ver, il le détruit juste au moment où on arrive à le créer.
Dans le micro, par contre, dans l'infiniment petit, je suis un de ceux qui croient, je pense que c'est
devenu, alors je ne sais pas si la communauté scientifique en a pris conscience, mais il y a quand même un lien, notamment avec les travaux de Maldacena, de Witten, etc., sur ce qu'on appelle ER. ER, c'est Einstein-Rosen, c'est le premier. Alors, c'était pas tout à fait un trou de ver, c'était un peu ce que dit Jean-Pierre, c'est-à-dire quelque chose qui s'effondre juste au milieu et qui est juste trou noir fontaine blanche. Et il n'y a pas encore de matière exotique dedans. On ne peut pas être réexpulsé. Égale EPR, les corrélations quantiques à grande distance, donc ça a l'air complètement disjoint, avoir aucun rapport, mais la conjecture récente, c'est de dire que les corrélations quantiques sont justement dues à ces petites portes dans l'espace-temps qui établissent non pas des paradoxes comme on l'a cru longtemps, hein, le paradoxe du grand-père, si je peux revenir en arrière dans le temps, alors il va y avoir des paradoxes, mais au contraire, la découverte de l'aléatoire, de la multiplicité des solutions, tout comme ça existe en mécanique quantique. Et ça, je pense que c'est pas encore bien passé, même dans le public scientifique, alors que ça fait maintenant, depuis le début des années 90, que l'on sait ça.
C'est quand même assez révolutionnaire ce que vous nous dites, Gabriel Chardin, et ce que vous nous dites également, et qui peut être encore plus révolutionnaire, vous l'avez un peu évoqué, c'est cette antimatière qui permettrait de remonter aux origines et de comprendre l'évolution de l'univers sans avoir besoin ni de matière noire, ni d'énergie noire, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je pense que cette réflexion que j'avais commencé sur la non-symétrie entre matière et antimatière, donc qui se voit un tout petit peu au niveau microscopique, dans le milieu des années 80, s'est retrouvée, évidemment, et pas instantanément, parce qu'au début, quelque part, l'énergie noire, je n'y ai pas cru pendant quelques années. Et c'est à une conférence en l'an 2000 aux États-Unis qu'il est devenu quand même de plus en plus clair qu'il y avait quelque chose d'observationnellement assez fort, qui a été confirmé d'ailleurs très très bien par une expérience dirigée par des Français qu'on appelle SNLS, qui a vraiment assis la découverte de l'énergie noire, hein, et qui a autorisé le prix Nobel une dizaine d'années plus tard. À ce moment-là, donc, est revenue la question de comment est-ce qu'on pouvait avoir cette gravité répulsive qui associait quelque part, donc on l'a vu dans l'étude des trous de ver, soit des masses négatives, soit des pressions négatives, donc des choses non habituelles dans la physique
quand
standard.
Quand vous dites matière, antimatière ou énergie noire, c'est de la matière, mais qui n'est pas positive, qui est négative. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'antimatière. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, simplement, ou...
Alors, ça, c'est Dirac, à la fin des années 20 et début des années 30, Paul-Adrien Maurice Dirac, avait quelque part remarqué que dès que l'on essayait de rétablir le lien entre la relativité d'Einstein et la mécanique quantique, on avait forcément, à chaque fois qu'on avait une solution de masse positive et d'énergie positive, on avait une solution de masse négative et d'énergie négative. À quoi correspondait ça? Pendant peu de temps, pour des raisons expérimentales, les gens n'ont pas cru du tout à cette matière d'énergie négative, jusqu'à ce que l'année suivante, en gros, Anderson découvre le positron, donc qui avait la charge. Alors la masse, on ne savait pas très bien, a priori, la même masse, en tout cas une énergie de masse identique, la masse gravitationnelle, on était bien en peine de savoir la mesurer, mais dans les théories de Dirac, c'était déjà de la matière, un électron qui remontait le temps, avec une énergie et une masse négative.
Donc c'est de l'antigravitation, ça peut remonter
l'antigravitation, c'est tellement faible la gravitation qu'il était absolument hors de question de la mesurer à l'époque. Et on arrive petit à petit à le mesurer et sur un objet 2000 fois plus lourd qui est l'antihydrogène. Et cette prouesse technique incroyable à cause de la faiblesse de la gravitation dans le champ terrestre va probablement être rendue possible dans quelques mois, peut-être, si on a un peu moins de chance, de 2-3 ans au CERN à Genève.
Au grand accélérateur de particules, vous allez avoir des expériences à remonter le temps. Alors, le voyage dans le temps, vous avez travaillé là-dessus aussi.
En fait, donc, ce n'est pas auprès du grand accélérateur, c'est auprès d'un petit décélérateur qui est en marge du grand LHC, qu'on appelle ELENA, Low Energy, je ne sais même plus quoi, Antimatter.
Antimatière
de basse énergie, qui est un décélérateur. Donc, il refroidit la matière pour essayer de faire des expériences où on arrive à faire des atomes relativement froids. Et autour de cette installation, il y a plusieurs expériences, mais il y en a trois qui veulent mesurer l'action de la gravitation sur l'antimatière, donc voir si elle tombe ou si, au contraire, elle remonte un peu comme une bulle dans l'eau ou dans l'hélium.
Dans quel sens peut bien tomber l'antimatière autour de la question comment faire avec l'insoutenable gravité de l'univers pour voyager dans l'espace et dans le temps? Across the Universe, Kurt Cobain, revisite Bowie, oui, sur RFI.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Across the Universe, c'est bien sûr les Beatles, revisités par Kurt Cobain sur RFI. Voyage à remonter le temps et l'espace autour de la question pourquoi l'insoutenable gravité de l'univers. Gabriel Chardin, pour tenter justement de la rendre soutenable, cette mystérieuse gravité, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, vous mettez en scène, vous nous apprenez le rôle de cette énigmatique antimatière, jumelle de la matière, on peut le dire comme ça.
Elle est extrêmement jumelle. C'est une jumelle destructrice dans le sens que si on met en contact un gramme de matière et un gramme d'antimatière, on a une explosion assez colossale qui rase une bonne partie de Paris, mettons, d'une grande ville.
Donc c'est dangereux de travailler sur l'antimatière?
De toute façon, c'est difficile à fabriquer pour le moment. Donc,
oui.
Le CERN, dans toute son histoire, a dû produire, j'avais calculé, je sais pas, il faudrait que quelqu'un précise ça un peu, mais environ un microgramme, je crois, d'antimatière dans toute son histoire. Pour une énergie quand même assez phénoménale. Actuellement...
On est sûr aujourd'hui qu'elle existe, cette antimatière. Ça, c'est une certitude.
Sûr. On la manipule journellement au CERN. On produit dans les collisions à haute énergie très facilement des
positrons. Quand vous dites on la manipule, c'est Nicolas Benital, l'autre côté de la vitre, qui demande des explications, il a raison. Quand vous dites on la manipule, comment on la manipule, l'antimatière? Si elle est anti-tout
Avec des champs électromagnétiques, avec des champs électriques, on peut faire des pièges à antimatière. C'est avec des objets comme des positrons, il y a même des sources, il y a des éléments de matière comme le sodium, un élément du sodium qu'on appelle le sodium 22, qui produit naturellement des positrons. On peut les capturer, on peut les mettre dans une bouteille magnétique ou électrostatique.
Bouteille magnétique d'antimatière.
Ouais.
Ça ferait un bon scénario de film,
hein,
ça aussi.
Oui, bah, c'est un film. Ange et démon, je crois que je ne sais plus combien, il y a de l'ordre du gramme ou quelques grammes d'antihydrogène, dont on ne sait pas très bien comment on arriverait à les piéger d'ailleurs, à des quantités aussi grandes. Certainement pas sous forme chargée, parce que ça exploserait littéralement. Donc sous forme atomique, ça serait extrêmement instable, on pense. Et donc, dès qu'on bougerait un peu le machin, ça ferait une explosion catastrophique.
Au sujet de cette antimatière, nouvelle question, ou plutôt anti-question, soulevée par Sylvain Guibaud du mensuel La Recherche.
On parle de l'antimatière qui est donc la sœur jumelle de la matière. Et je sais qu'il y a des expériences qui sont en train de se monter pour essayer de voir comment l'antimatière tombe. Est-ce que selon vous, l'antimatière peut tomber vers le haut?
Est-ce que l'antimatière peut tomber vers le haut, Gabriel Chardin?
Alors, à mon sens, oui, tout à fait.
Ah, d'accord.
Et peut-être... Il y a eu une conférence récente là, qu'on appelle LIP 2018 qui a lieu tous les deux ans quelque part dans le monde, et Low Energy Antiprotons pour LIP, et avait lieu cette année à Paris où j'ai parlé à la fois pour présenter une nouvelle partie de recherche avec des collaborateurs et d'autre part pour discuter un peu ce qui existe déjà dans la théorie d'Einstein. En fait, le choc, c'est qu'on pourrait n'avoir qu'à modifier extrêmement à la marge la relativité d'Einstein pour avoir de l'antigravité. En particulier, je pense qu'on s'est trompé complètement sur une série d'hypothèses qu'on a faites dans la relativité d'Einstein. En particulier, on a éliminé complètement la possibilité, avec des gens extrêmement connus comme Ed Witten, il y avait des théorèmes d'impossibilité que l'on puisse avoir des masses négatives.
Or, donc, impossibilité d'antimatière,
impossibilité
en fait.
Théorique. Oui, mais sans même aller chercher l'antimatière.
Or, vous dites qu'il n'y a pas d'impossibilité, enfin...
Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est petit à petit sont arrivés. Il y avait plus généralement que l'impossibilité de masse négative, que l'on savait construire au moins comme objet de pensée dans la relativité d'Einstein depuis les années 50, il y avait l'idée que ces objets étaient violemment instables. Or, quelque part, premier patatras, en 98, on découvre une première façon de violer ce qu'on appelle les termes de positivité de l'énergie. L'énergie noire est une violation assez flagrante de la positivité de l'énergie à cause de sa pression négative. Là, la densité d'énergie, quand on est avec elle, reste positive. Donc, il n'y a pas encore de masse négative ou d'énergie négative. Par contre, sa pression est négative pour des raisons qu'on ne va pas expliquer ici, qui sont un peu techniques. Et ça a pour conséquence que la masse effective de cet objet devient négative. Et assez violemment négative. Or, donc déjà, les gens savaient qu'au moins une partie des théorèmes de positivité de l'énergie, donc la non-existence ou l'existence de matière exotique, la non-existence devenait moins absolue, beaucoup moins absolue. Et donc, petit à petit, les autres expressions, les gens disaient « Oui, mais si peut-être la pression peut être négative, et donc la masse effective peut être négative, mais la masse elle-même ne peut pas être négative. » Et donc, en 2014, le dernier clou dans le cercueil de ces théorèmes de positivité de la masse, de l'énergie, est venu d'un théoricien d'origine indienne qui est à Montréal, Paranjapé, Manu Paranjapé, qui a explicitement construit une sorte de bulle, une sorte de petite sphère de masse négative. Et là, c'est donc l'exemple est parfaitement stable. Par ailleurs, donc ça montre que les hypothèses, pour des raisons que l'on comprend d'ailleurs, notre univers ne peut pas être stable. Et dès qu'on le met dans un univers en expansion comme le nôtre, eh bien, ces objets-là ne sont pas impossibles. La preuve, on peut les construire.
C'est-à-dire qu'il y a moins d'impossibilités qu'on ne le pensait, et qu'il y a moins d'impossibilités entre la théorie d'Einstein et c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligation de repenser une nouvelle physique. C'est ce que au fond, vous êtes en train de dire qu'avec ce qu'on a, si on accepte l'impossibilité.
Alors après, il y a un deuxième aspect qui est que on a toujours en tête les expériences de Galilée, c'est-à-dire que quand on est sur la tour de Pise et on laisse tomber un kilo de plomb, un kilo de plume, s'il y a du vide autour, tout le monde tombe de la même façon. Ça, c'est l'expression habituelle du principe d'équivalence. Ça reste vrai, au moins en apparence, dans la théorie de la relativité d'Einstein. On prend un kilogramme de masse positive, un kilogramme de masse négative, ils sont tout seuls dans l'univers, à côté de la Terre, et puis rien d'autre, ils tombent tous les deux. Et maintenant, que se passe-t-il si on les réunit par une ficelle entre eux? Eh bien, il se passe un truc complètement fou, complètement contre-intuitif, c'est que la masse négative empêche la masse positive, le kilogramme de masse négative, le moins M,
qui veut tomber vers le haut.
Oui, lui, alors, il a une force qui s'exerce vers le haut et qui le fait tomber vers le bas. Mais si on le relie à un deuxième corps, les deux se mettent à léviter et la masse négative essaye de tirer vers le haut, donc se déplace légèrement vers le haut.
Ce que vous nous dites, c'est que la lévitation, ça, c'est possible. Il n'y a pas d'impossibilité non plus.
C'est non seulement possible, mais c'est prédit par la relativité générale, et ça avait été vu il y a déjà 25 ans par quelqu'un, un relativiste qui est assez connu, qui est Price, Richard Price, et qui l'avait considéré comme une curiosité, c'est-à-dire qu'on est encore 5 ans avant la découverte de l'énergie noire, donc personne ne se préoccupe et ne considère comme possible ces masses, ces énergies négatives, alors que là, donc, on voit apparaître l'idée que s'il y a à l'intérieur du vide des composants qui, le vide étant un milieu, ne vont jamais être totalement isolés, sont quelque part cachés dans le vide, ces objets-là vont savoir léviter, voire même complètement antigraviter.
Jusqu'où cette antigravitation, cette lévitation pourrait nous entraîner, toujours plus loin, toujours plus sidérant? Nouvelle question pour vous, soulevée par un autre astrophysicien, fan lui de science-fiction, c'est Roland Lehoux qu'on l'écoute.
Alors, cher Gabriel, toi qui connais bien la gravitation évidemment, et moi qui aime bien la science-fiction, je me pose toujours la question de savoir si on pourra un jour avoir un véhicule qui se déplace grâce à l'antigravité.
Un véhicule qui se déplace grâce à l'antigravité, qui lévite, pourquoi pas?
Alors, tout à l'heure, je parlais de Kip Thorne et de son groupe, hein, parce qu'il n'a pas fait ça tout
prix
seul.
Nobel.
Avec, oui, prix Nobel depuis, avec Igor Novikov, enfin, et puis de ses étudiants, Echeverria, Klinghammer. Ils ont étudié justement ça, c'est-à-dire dans quelles conditions, posées par Carl Sagan, qui est un ami de Kip Thorne, dans la préparation du scénario de Contact, le film, donc essayer d'avoir justement ces passages à distance.
Et des contacts avec d'autres
civilisations
lointaines.
On parlait des trous de verre. Hein, donc essayer de construire, de lutter contre les distances énormes dans l'univers. Et donc pour arriver à faire ces trous de verre, pour arriver à faire cette gravité répulsive, il faut arriver à violer les conditions de positivité de l'énergie. Donc on sait que c'est possible, la preuve, l'énergie noire, si elle représente 70% ou quelque chose comme ça dans l'univers, c'est un composant majeur.
Encore faudrait-il arriver à le produire
et
à notre échelle.
Alors, si mon interprétation est bonne, pour le vaisseau de Roland, il faut le faire en antimatière et avoir une masse de matière un peu supérieure à la masse qu'il veut transporter. Et ça devient dangereux, quoi. Parce que, d'une part, cher, probablement, parce qu'on ne sait pas. On peut imaginer.
C'est cher, l'antimatière, oui.
C'est très, très cher à l'heure actuelle. On peut imaginer, et on connaît des processus qui pourraient produire de façon massive à partir d'un bloc de matière, autant de matière que d'antimatière. Les trous noirs primordiaux chers à Stephen Hawking, quand ils ont la masse d'une petite montagne, 10 puissance 15 kg à peu près, rayonnent à peu près de façon symétrique entre matière et antimatière.
Donc peuvent produire autant d'antimatière.
Peuvent produire autant d'électrons que de positrons. Les autres éléments plus lourds, ils n'arrivent pas encore à les produire. Il n'y a pas assez de tension superficielle.
Donc on pourrait imaginer,
on peut imaginer
faire un véhicule qui fonctionnerait
de,
à l'antimatière.
De Roland, on en parlera, Roland, avant que tu montes dans le vaisseau.
Oui, il faut mieux faire attention quand même.
Un certain nombre de précautions.
Il
ne
faut pas exploser
prendre.
Dedans. Voilà. Surtout que si on met de la vraie matière dans l'antimatière, ça peut être compliqué.
Disons, pour transporter Roland ou quelques passagers, il faut environ, mettons, quelques centaines de kilos au moins. Quelques centaines de kilos d'antimatière, on va dévaster une bonne partie de la Terre. De la surface de la Terre.
Bon, donc c'est pas pour tout de suite encore. Autour de la question jusqu'où nous entraînera l'insoutenable gravité de l'univers et l'antimatière, science ou science-fiction, avec les Arctic Monkeys sur RFI. Religious iconography, giving you the creeps. Feel the modern disco lizard, tongue along your cheek. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrudged. It's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. I wanna stay with you, my love. The way some science fiction does. Autour de la question. Reflections in the silver screen. Strange society. Swamp monster with a heart on for connectivity. The ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony. Quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages the way some science fiction does. Got the world on a wire in my little mirror, mirror on the wall in the pocket of my raincoat. Science fiction, extrait du dernier album des Arctic Monkeys sur RFI. Autour de la question jusqu'où nous entraînera l'insoutenable gravité de l'univers, je vous rappelle, amis auditeurs, que nous avons encore un exemplaire de cet ouvrage à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Si l'on vous suit, Gabriel Chardin, dans votre hypothèse du rôle de l'antimatière, nous voilà devant une nouvelle histoire de l'univers, sans aucune zone d'ombre, sans énergie et sans matière noire, loin de l'hypothèse la plus communément admise aujourd'hui, loin du modèle cosmologique standard, mais qui rejoint bien l'intuition, vous l'avez dit, de votre maître, on pourrait dire Paul Dirac, éminent physicien qui parlait peu car il ne voulait dire que des choses vraies. C'est l'anecdote qu'aime raconter le philosophe et physicien Étienne Klein. On l'écoute.
Dirac, c'est quelqu'un qui ne voulait dire que des choses vraies. Les gens avaient peur de lui adresser la parole parce que précisément, il ne parlait que pour dire des choses vraies. Donc ils étaient terrorisés. Et Paoli, qui est un de ses collègues, raconte qu'un jour, ils étaient dans le train, en Angleterre. Paoli ne sait pas trop comment aborder Dirac et saisit l'occasion qui lui est donnée. Il traverse un champ, il voit des moutons et Paoli dit « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac regarde attentivement, il ne veut dire que des choses vraies. Il regarde, il revient vers Paoli et il lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Non, ça veut dire que quand nous regardons un objet sous un angle partiel, nous concluons sur sa nature à partir d'un point de vue partiel. Parce que pour savoir qu'un mouton a été tondu de partout, si j'ose dire, il faut en faire le tour. Autrement dit, qu'est-ce qu'on appelle un élément de réalité ? un élément de réalité, c'est un élément qui résiste à un changement de point de vue.
Vous voulez réagir, Gabriel Chardin, à cette anecdote de Paul Dirac rapportée par Étienne Klein à ses élèves sur la difficulté de faire le tour de la réalité, c'est ça ?
Ah, sur la réalité, je ne sais pas. Dirac est effectivement quelqu'un de très prudent, très très marqué probablement par sa jeunesse et par son histoire familiale, et qui disait extrêmement peu de choses. Et il y a c'était pas seulement une histoire, une interview qu'il avait faite où il avait été absolument odieux avec pauvre journaliste. Une journaliste, je crois, et il avait dû dire 5 ou 6 mots pendant toute l'interview. Alors,
oui ou non. Il risquait pas de dire des choses fausses ou d'être mal compris, parce que c'est aussi extrêmement complexe et compliqué de nous faire passer, c'est sûr que parfois la science-fiction, le cinéma même peut y aider, de nous faire passer des concepts aussi sidérants et étranges que l'antimatière qui tombe vers le haut. Enfin, c'est quand même très compliqué aussi de faire passer ça, non pas en équation mais en mots.
Oui, c'est relativement compliqué. En ce qui concerne Interstellar ou les trous de verre, Contact dont on a parlé,
donc,
il y a eu des physiciens comme Kip Thorne dont j'ai déjà parlé, hein, qui a été un conseiller scientifique, qui dans Interstellar d'ailleurs a... c'est pas lui qui a fait les calculs, mais il y avait une équipe de physiciens qui a calculé, un peu comme le fait Alain Riazuelo à l'Institut d'astrophysique de Paris, les images que l'on verrait si l'on se rapprochait d'un trou noir comme Gargantua ou d'un trou de verre. Et donc on peut faire des imaginations de situations assez extraordinaires, potentiellement instables, qu'on n'arrivera jamais à réaliser dans la nature, mais on peut tester comme ça des scénarios qui sont effectivement très utiles dans la progression de la réflexion.
Alors pour progresser dans la réflexion, vous attendez 3 expériences hein, au CERN à Genève, qui auront peut-être lieu avant la fermeture du site. 3 expériences qui vont peut-être confirmer, infirmer votre thèse assez révolutionnaire de l'antimatière qui permettrait de comprendre l'histoire de notre univers et la gravité sans avoir besoin d'énigmatiques énergie noire ou matière noire.
Alors peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, on sait depuis pas mal de temps que l'univers est très proche d'être vide. C'est-à-dire au sens gravitationnel.
Enfin, un vide qui est plein, mais bon, c'est un peu compliqué
là. Un vide qui est plein, mais avec autant de masse positive que de masse négative. Et donc, petit à petit, ça a permis à ces 3 expériences de se lancer. Il y en a eu d'abord, la première, ça a été Aegis. Ensuite, il y a eu GBAR, à laquelle j'ai un petit peu participé dans la conception. Et puis AlphaG, le dernier, qui est arrivé. Très récemment.
Et qui va tenter de peser l'antimatière.
Tous les 3.
Peser l'antimatière, moi ça me plaît.
Peser l'antimatière et l'antihydrogène. Et il faut qu'on se méfie parce qu'on arrive à peu près à l'heure.
Et on arrive à la fin de cette émission et on est obligé d'attendre la réponse du CERN à Genève pour savoir
avant novembre,
si votre hypothèse
sinon,
est
2 ans et demi d'attente.
Merci infiniment Gabriel Chardin d'être venu en direct partager toutes ces hypothèses sur l'insoutenable gravité de l'univers. C'est le titre de votre essai Sidéral et sidérant qui vient de paraître au Pommier et nous avons encore un exemplaire à vous faire gagner. Amis auditeurs, manifestez-vous. Merci à Nicolas Benita à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses, bien sûr, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur RFI, le prochain journal dans une minute. Priorité.